Bonjour. Vous allez peut-être entendre à ma voix, non pas que les fêtes ont été trop arrosées, mais que les virus ont failli avoir raison de moi. J'espère que c'est pas trop désagréable d'entendre ma voix fatiguée, mais je peux vous assurer que je suis heureux d'être devant vous ce matin. Peut-être que le Seigneur permet cette fragilité vocale pour que je sois pas trop long. Et les jeunes et puis d'autres peut-être se réjouissent. Et puis pour que je sois aussi dans cet état de fragilité qui est important aussi. Voilà. Quand on se sent fort, on est toujours moins bon, je crois, devant le Seigneur. Et c'est peut-être bien que cette faiblesse me garde tout près de lui et qu'elle m'aide à aller à l'essentiel. Je voudrais relire et peut-être même que je ferai lire à quelqu'un, le passage que j'ai choisi et qui est logique puisqu'il s'agit pour certains chrétiens très bientôt de fêter l'épiphanie. Vous savez qu'en France et dans d'autres pays, on a mis l'accent sur Noël et la naissance de Jésus. Mais dans d'autres pays, on fête la venue des mages. Et ce moment en fait où Jésus enfant est déclaré sauveur du monde et Messie. Pour beaucoup de pays, c'est plus important. Et ils ont peut-être pas tort. Et donc, comme c'est quasiment la fête de l'Épiphanie, je voudrais lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, et les versets 1 à 12. Et je vais même demander si quelqu'un veut venir lire ces versets, soit dans cette Bible qui est devant moi, soit avec sa Bible. Matthieu, chapitre 2, et les versets 1 à 12. Ça économisera un petit peu ma voix. Merci Myriam.
Les mages et Hérode. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Merci Myriam. Je voudrais en fait commenter ce passage, essayer de nous aider à le comprendre, mais je voudrais éviter deux risques qui me semblent importants. Le risque, ce serait de détacher ce message et ce texte de ce que les uns et les autres nous vivons aujourd'hui. Et par exemple, passer sous silence, eh bien, la douleur des uns et des autres, et je pense particulièrement à la douleur de ces familles qui viennent de perdre des jeunes dans ce réveillon, vous savez, en Suisse. Comme si il ne fallait pas en parler. Et puis l'autre risque, ce serait de trop penser à ça, de trop parler de ça, pour oublier de commenter ce texte, et de voir en fait ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Et sa parole parle toujours, même au travers de la voix de quelqu'un qui a la voix fatiguée. Eh bien, Dieu veut nous dire des choses. Et il veut nous parler au travers de ces mages et de leur comportement et de ce qui s'est passé ce jour-là. Et je voudrais essayer de faire régulièrement ce lien entre cette histoire incroyable mais vraie, entre cette vieille histoire que nous connaissons peut-être tous trop bien, et puis ce que nous vivons et ce qu'ont vécu ces familles et ces jeunes dans ce drame terrible en Suisse. La première chose qui est marquante dans ce texte, c'est que les mages ont vu des signes dans le ciel. Ils ont vu une étoile, et on pense que c'est l'apparition d'une étoile ou d'une constellation ou de quelque chose dans le ciel qui n'était pas habituel. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au minimum, ces gens-là scrutaient le ciel et les étoiles, et qu'ils étaient curieux, et qu'ils cherchaient des signes. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Des gens qui sont attentifs et qui cherchent un peu partout, et parfois un peu trop, des signes. Alors ces gens peuvent être embêtants, parce qu'ils voient toujours des choses que nous on ne voit pas, et parce qu'ils essaient de comprendre tout ce que veulent dire ces signes. Quelque chose dans le ciel, et puis peut-être même quelque chose dans leur vie. Ces gens sont souvent en fait quand même des chercheurs de vérité. Ils essaient de comprendre ce qui se passe autour d'eux, peut-être parfois, comme je l'ai déjà dit, un peu trop, mais quand même, ce sont des chercheurs de vérité. Eh bien, je crois qu'il faut être attentif à ces gens-là. Si nous ne le sommes pas, et peut-être que parmi nous, certainement que parmi nous, il y a des chercheurs et des chercheuses de vérité, mais si nous ne le sommes pas, eh bien, nous devons souvent être à l'écoute de ces gens qui cherchent et qui voient. Et nous devons encourager ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que nous avons parmi nous des plus jeunes, des enfants et des adultes autour de nous qui cherchent la vérité et qui voient les signes. Et quand ils nous le disent, eh bien, soyons attentifs. Mais il y a une autre leçon dans ce passage, c'est que ces chercheurs de vérité, même s'ils avaient vu un signe dans le ciel, même si Dieu se révèle à tout le monde, et notamment à des étrangers, et vous avez peut-être compris que ces mages venaient d'Orient, et qu'on ne nous dit à aucun moment que ces mages étaient juifs, et qu'ils connaissaient la parole de Dieu, et qu'ils avaient vu des signes dans le ciel parce qu'ils avaient lu les Écritures. Non, on nous laisse même entendre que ces gens avaient simplement vu des signes dans le ciel, et qu'ils avaient suivi l'étoile. Et on nous fait comprendre d'ailleurs à un moment qu'ils sont un peu perdus. Ils ont suivi l'étoile, mais ils n'arriveront jamais jusqu'au Sauveur s'ils ne demandent pas de l'aide. Et s'ils ne comprennent pas que ce sont les scribes, en lisant les Écritures, et quand on dit, nous les chrétiens, les Écritures, on parle de la parole de Dieu, et à cette époque de l'Ancien Testament, eh bien ils vont comprendre, grâce aux scribes, qui avaient la parole, mais qui ne la regardaient pas ou pas assez, que cet enfant devait naître à Bethléem. Et ils vont se diriger vers Bethléem et ils vont voir à nouveau l'étoile, et l'étoile va s'arrêter au bon moment, au bon endroit. Et j'espère que vous comprenez la leçon incroyable de ce passage. Cette histoire qui ressemble à une histoire pour les enfants, eh bien, nous dit que certains, sans connaître la parole de Dieu comme nous, vont mieux voir les signes que nous, et qu'ils ont besoin de nous qui lisons les Écritures pour comprendre ces signes et pour aller jusqu'à Jésus. C'est une leçon incroyable. D'abord, ça nous appelle à beaucoup d'humilité parce que ce sont souvent les autres qui vont voir ce que nous ne voyons plus. Ils vont voir, par exemple, la grâce dans l'Église. Alors que nous, l'Église, on en a jusque-là parfois. Alors que nous, on ne voit plus la grâce, on voit les gens embêtants, on voit tout ce qui ne va pas dans l'Église. Et quelqu'un qui va venir pour la première fois va voir et va ressentir la grâce. Alors on doit être attentif à tous ces païens, à tous ces mécréants, mais qui cherchent la vérité, à tous ceux qui ne nous semblent pas être des bons chrétiens, et pour une bonne raison, c'est qu'ils n'en sont pas, mais qui voient des choses que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons plus. Nous avons besoin d'eux, et ils ont besoin de nous. Sans nous, sans les Écritures, sans les scribes, sans les connaisseurs de la loi, eh bien, ils n'iront pas jusqu'à Jésus. Et vous savez, ça fait penser à quelque chose, c'est que parfois on entend, et c'est pas complètement faux. Vous savez, ce qui est grave avec les choses qui sont pas complètement fausses, c'est qu'elles sont fausses quand même. Parfois, ils entendent et on entend dire que notre attitude, notre comportement suffira à amener les gens à Christ. C'est vrai, c'est faux, et donc c'est faux. Parce qu'en fait, si notre attitude et notre comportement peuvent être comme des signes, comme une étoile dans le ciel qui vont attirer les gens, eh bien, s'il n'y a pas des scribes, si nous ne leur disons jamais, pourquoi nous agissons ainsi? Pourquoi nous sommes plus patients? Pourquoi nous sommes plus doux en espérant que nous le sommes, eh bien, ils n'arriveront pas jusqu'à Christ. Parce que nous n'aurons pas expliqué notre comportement. Parce que nous n'aurons pas expliqué que c'est grâce à Christ que nous faisons tout cela. C'est grâce à Christ que nous brillons. Et nous avons donc besoin de ces chercheurs de vérité qui sont parfois des étrangers, des non-chrétiens, des païens, des mécréants. Et ces mécréants, ces chercheurs de vérité ont besoin de nous et de notre connaissance de la parole, de cette parole que nous avons parfois oubliée. Mais il y a une deuxième partie dans l'histoire. C'est ce moment, en fait, où quand même ces chercheurs de vérité, eh bien, vont entendre la parole des scribes et comprendre que le Sauveur est à Bethléem, mais ils vont aussi rencontrer quelqu'un d'incroyable. Hérode, le grand roi. Vous savez, je ne sais pas si j'ai raison, mais la première personne à qui j'ai pensé en étudiant ce texte et en voyant l'attitude d'Hérode, c'est Donald Trump. Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais franchement, quel orgueil, quelle prétention, quelle méchanceté. Je dis pas que tout est mal chez Donald Trump, je dis pas que Donald Trump est Hérode et qu'il aura la même fin qu'Hérode, mais quand même, que c'est étonnant de voir Hérode qui rapidement, très rapidement, trop rapidement, décide que la venue de ces étrangers, qui finalement doit être un signe extraordinaire, qui annonce le Sauveur, eh bien, va être une menace pour Hérode. Et qu'avec ses paroles doucereuses, il va dire, oh, mais quand vous saurez où il est, venez me le dire pour que je puisse l'adorer, Ce qui veut dire vraiment dans son langage, on imagine d'ailleurs le double langage des hommes politiques, je ne vais pas parler de Trump à chaque fois, mais quand même, il est très fort pour ça aussi, pour que je puisse l'adorer, ce qui veut dire pour que je puisse le tuer, pour que je puisse éliminer cette menace, parce que je suis menacé dans ma puissance, dans ma gloire. Et si nous avons vu des mécréants, des étrangers qui cherchaient la vérité, nous voyons ici un roi qui a tout à sa disposition, qui est le roi du peuple de Dieu, le roi du peuple d'Israël, qui a avec lui la parole de Dieu, qui a des scribes, qui pourraient leur demander de lire cette parole et qui pourraient chercher à mieux la comprendre, qui pourraient se demander si ce signe, si ces étrangers, si ce sauveur annoncé, eh bien, ne devrait pas être son sauveur à lui aussi. Eh bien, Hérode va se couper de tout ça et va s'opposer à tout ça. Et en s'opposant à Dieu, en s'opposant à la venue de son Sauveur, il va s'opposer à Dieu. Ce message de l'Épiphanie, c'est aussi un avertissement incroyable à tous les puissants, à tous ceux qui ont une connaissance des textes bibliques. Et sans nul doute, il y a beaucoup d'Américains et d'hommes puissants qui ont une connaissance des textes bibliques. Mais qu'en font-ils et qu'en feront-ils ? Et je nous invite à prier pour ces puissants, pour qu'ils soient brisés. Je prie pas pour que Donald Trump soit kidnappé, enlevé, comme il l'a fait avec un président d'un pays voisin, ce qui est incroyable. Mais je prie pour que lui et beaucoup d'autres qui ont du pouvoir puissent comprendre que Dieu leur demandera des comptes. Et qu'ils ont d'ailleurs plus de comptes à rendre avec cette puissance et ce pouvoir qu'ils ont. Et que cette histoire des mages nous parle aussi de tout ça, et de ces puissants, et de notre prière pour ces puissants. Je sais que notre première réaction, j'imagine, c'est la colère et c'est la demande à Dieu, que Dieu agisse et qu'il punisse cet homme et puis tant d'autres. Mais prions pour que cet homme, parmi tant d'autres, parmi tous les puissants, puisse découvrir ou redécouvrir Dieu, dont il parle beaucoup. Le troisième moment, en fait, dans cette histoire, et ce sera notre conclusion, et nous essaierons de faire le lien entre ce qui a été vécu, ce qui se vit encore d'une certaine façon en Suisse. C'est ce moment, en fait, où les mages vont arriver devant l'enfant, ils vont adorer l'enfant, et ils vont repartir par un autre chemin. Les mages auraient pu simplement se contenter d'arriver au bout de leur quête. Ils ont vu l'enfant, ils ont réussi. C'est une victoire incroyable, ils ont vu des signes dans le ciel, ils sont allés jusqu'à Jérusalem, ils ont vu le roi, ils ont entendu les scribes, et ils ont trouvé l'enfant. Parfois, il y a des gens, en fait, qui se contentent d'aller au bout de leur quête, et qui ont beaucoup de connaissances, et qui ont compris beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas plié les genoux devant l'enfant. Et je vous assure, en fait, qu'on s'habitue trop à cette histoire. Parce que se mettre à genoux devant cet enfant dans cette étable, c'est un miracle. C'est un miracle intellectuel, c'est un miracle spirituel. Ces mages étaient quand même des gens impressionnants. C'était des sages, je pense. Et avec toute leur connaissance, avec leur victoire, parce qu'ils ont trouvé l'enfant, ils vont jusqu'au bout de leur démarche. S'ils ont cherché la vérité, bien maintenant ils doivent se mettre à genoux devant la vérité. Et ils s'agenouillent devant l'enfant pour l'adorer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont l'adorer et ils vont tirer toutes les conséquences de cette adoration. Alors certes, vous allez me dire, ils vont avoir une révélation, ils ont un songe qui leur dit qu'il vaudrait mieux ne pas avertir Hérode et ne pas prendre le même chemin. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce songe? Parce qu'ils ont adoré le Christ. Parce qu'ils se sont déjà agenouillés. Et parce que Dieu veut évidemment que cette histoire aille au bout, que l'enfant Jésus ne soit pas assassiné par Hérode, et il ne le sera pas, et que ces hommes soient félicités, encouragés dans leur adoration, dans cette quête de vérité qui est allée jusqu'au bout, et c'est extraordinaire. Alors vous allez me dire, quel rapport avec ce qui s'est vécu en Suisse, avec ces jeunes décédés ou grièvement brûlés, avec ces jeunes traumatisés. Et je suis certain que même ceux qui ne sentirent qu'avec quelques brûlures sont traumatisés pour toute leur vie. Quel rapport entre ce drame et notre histoire? Eh bien, il me semble que le rapport, ce sont les signes. Est-ce que nous savons voir les signes? Et est-ce qu'ensuite nous essayons de mettre ces signes en relation avec Dieu et avec sa parole? Vous savez, je voudrais pas trop en dire parce que il faut qu'on reste respectueux devant tout ce qu'ont vécu, tout ce que vivent ces familles. Mais que c'était impressionnant de voir, pour ceux qui l'ont vu, et vous n'êtes pas obligés de voir ça et de le regarder, mais de voir ces jeunes qui filmaient le début de l'incendie. Et la musique continuait, et les danses continuaient. Et les films se poursuivaient. Comme si ces jeunes n'avaient pas su voir les signes. Comme s'ils n'avaient pas su arrêter la musique, arrêter la danse, arrêter la fête pour se sauver, pour sauver leur vie. Je ne dis pas qu'on l'aurait fait, et peut-être que c'est un peu facile de dire ça, qu'il faut arriver à voir les signes. Mais je voudrais faire un parallèle maintenant entre ce qui s'est passé, cette difficulté qu'ils ont eue à tout arrêter et à quitter les lieux et à donner l'alerte et à couper la musique et à arrêter de danser, et cette difficulté que nous avons dans notre monde aujourd'hui à voir les signes. Gilles l'a dit à sa façon en décrivant une France qui ne va pas très bien. On pourrait décrire un monde qui ne va pas très bien. On pourrait décrire en fait une jeunesse qui ne va pas très bien. Et au lieu de trop la critiquer, au lieu de dire quand même qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui filment au lieu d'agir, au lieu de se sauver ou d'aider, il y avait ceux qui filmaient aussi à l'extérieur. Il y avait des gens qui essayaient de sortir des fenêtres et puis d'autres jeunes qui les filmaient. Au lieu de les accabler, puissions-nous, comme je vous ai invité à le faire pour les puissants, prier pour eux. Priez pour nous, parce que nous sommes touchés aussi. Et si c'est plus flagrant pour les jeunes et pour notre jeunesse, eh bien nous sommes aussi responsables de cet état de fait, de l'état de cette jeunesse, parce que nous sommes touchés nous aussi. Et parce que nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Prions pour ces jeunes, pour qu'ils ne soient plus autant anesthésiés, pour qu'ils n'aient plus ce désir de mettre une sorte d'écran entre la réalité et eux. Vous savez, ce moment où ils filment, je crois que c'est pour mettre un écran, parce que c'est trop dur peut-être à voir. Et qu'ils puissent maintenant, et que nous puissions vraiment maintenant voir les signes. Ce ne sera peut-être pas une étoile dans le ciel. Mais je crois que nous avons eu suffisamment de signes ces dernières années, dans notre pays, dans le monde, dans l'Église, pour que nous puissions les uns et les autres arrêter de nous filmer, arrêter de danser, arrêter la musique. Blaise Pascal disait le drame de l'être humain, et il le disait il y a longtemps de cela, hein, c'est de ne plus savoir rester seul dans sa chambre, devant lui-même et devant Dieu. Il y a un moment où il faut arrêter la musique. Il y a un moment où il faut arrêter de danser, même si je ne dis pas que c'est mauvais de danser, et même si je ne dis pas que la musique est mauvaise, j'aime tellement la musique. Mais il y a un moment où il faut arrêter la musique. Et il faut soit s'enfuir, soit aider les autres à s'enfuir, pour sauver sa peau, pour sauver son âme. Prions pour ces familles endeuillées. Prions pour ces jeunes, ceux qui s'en sont sortis et ceux qui sont traumatisés de s'en être sortis. Prions pour notre pays, prions pour notre Église, pour que Dieu nous aide à tirer les leçons de l'épiphanie, à voir autour de nous tous ces chercheurs de vérité et à leur proposer l'Écriture. Ils attendent Dieu. Ils attendent de comprendre qui est le Sauveur. Ils ont du mal à imaginer que ça puisse être dans l'Église. Mais comme Gilles l'a dit aussi, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent la vérité. Parce que c'est pas possible que ce monde soit sans sens, sans vérité, sans profondeur, et que ce soit si superficiel, si inutile, si vide. Beaucoup aspirent à plus, à mieux. Que nous puissions être là, quand ils seront dans le temple de Jérusalem, quand ils entreront peut-être dans ce temple, ou quand ils croiseront notre route, pour que nous puissions, comme les scribes l'ont fait dire, c'est Jésus le Sauveur. Et c'est Jésus le Sauveur, ça veut pas juste dire votre quête est terminée, mais vous devez plier les genoux devant Jésus, reconnaître qu'il est le roi et qu'il est Dieu. Et pour que les gens le fassent, il faudra que nous aussi, si on s'est peut-être un peu relevé, nous puissions plier les genoux devant Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de m'avoir donné un peu de voix ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour l'attitude des mages. Merci pour leur humilité. Et merci pour leur adoration. Que nous puissions, Seigneur, à leur suite, te chercher à nouveau, nous agenouiller à nouveau et permettre que beaucoup te trouvent, Seigneur. Que ton Église soit comme un signe dans le ciel et que ton Église porte aussi ta parole qui déclare que toi, Jésus, tu es le Sauveur du monde, la seule solution et le seul qui mérite notre adoration. Amen.